Radio Prague, les informations.
Le Bureau de protection des données contre la possibilité pour l'Union européenne d'accéder aux données des passagers aériens. La présidente du Parlement tchèque propose Sir Nicholas Winton au prix Nobel de la paix. Et en tennis, à Paris, Kvitova s'est qualifiée pour les quarts de finale. Le Bureau de protection des données de République tchèque s'est exprimé contre la possibilité pour l'Union européenne de pouvoir accéder aux données des passagers aériens. La Commission européenne a en effet préparé une proposition de directive dans le cadre de la lutte antiterroriste. Mais d'après les défenseurs des données privées et sensibles, l'efficacité d'une telle mesure n'est pas probante, dans la mesure où les terroristes peuvent utiliser d'autres moyens de transport que les avions. Dans sa proposition de directive, la Commission européenne suggère que les administrations de tous les pays de l'Union européenne puissent avoir accès aux données des passagers qui rentrent et sortent du territoire européen. Les données devraient être fournies par les transporteurs aériens. Le ministre de la Santé, Léo Scheger, va préparer d'ici la semaine prochaine de nouvelles grilles de salaire avec des augmentations pour les médecins allant de 5 000 à 8 000 couronnes. D'après lui, il existe un espoir que le gouvernement accepte la proposition mercredi prochain si les syndicats appellent leurs membres à retirer leur démission ou s'ils mettent un terme à la campagne. 2 milliards de couronnes devraient être injectées pour l'augmentation de ces salaires. Les nouvelles grilles ont déjà fait l'objet de discussions entre le ministre du Travail et des Affaires sociales mercredi. Miroslava Němcová, la présidente de la Chambre des députés tchèques, a choisi de nominer Sir Nicholas Winton au prix Nobel de la paix. Elle a fait savoir qu'elle avait demandé le soutien de John Bercow, président de la Chambre des communes en Grande-Bretagne, et de son homologue à la Knesset, Reuven Rivlin. Celui-ci a accepté tandis que M. Bercow a déclaré la soutenir, mais ne pas pouvoir proposer la nomination lui-même. Rappelons qu'en 1939, Sir Nicholas Winston a organisé le sauvetage de près de 700 enfants juifs pour la plupart de la Tchécoslovaquie occupée par les nazis. Récemment, un film retraçant l'histoire de ce Schindler britannique est sorti dans les salles tchèques. En tennis, après 3h14 de jeu, la Tchèque Petra Kvitova est venue à bout de sa compatriote Barbora Zahlavova-Stretsova en 3-7, 6-4, 6-7, 7-6 et s'est donc qualifiée pour les quarts de finale de l'Open GDF Suez, un quart de finale à Melbourne, un week-end à succès en Fed Cup et désormais un quart à Coubertin. Petra Kvitova tient la cadence. Au prochain tour, elle affrontera la Belge Janina Wickmayer qui a éliminé la Tchèque Klára Zakopalová 6-1, 6-3. L'USK Prague ne participera pas au quart de finale de l'Euroleague féminine de basketball. Les Tchèques ont été nettement battus par Tarente, 49 à 83 mercredi soir en Italie. À l'occasion du match d'appui des huitièmes de finale, les Pragoises avaient pourtant remporté le premier match en Italie et ne s'étaient inclinées que de justesse après avoir longtemps mené lors du retour à domicile vendredi dernier. On finit par un mot de météo. Vendredi, jour de fête des Beaujolais, ce sera un temps couvert et pluvieux qui régnera sur le territoire. Les maximales oscilleront entre 6 et 10 degrés. Le week-end devrait être un peu plus frais, mais ensoleillé. C'est la fin de ce bulletin d'information de Radio Prague. Tout de suite, la suite du programme présenté par Guillaume Larguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Anna pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Une actualité dominée par la visite en France du Premier ministre tchèque à Paris. C'est jeudi et vendredi, Petr Nečas rencontrera le président Nicolas Sarkozy et son homologue François Fillon. L'énergétique avec le projet d'achèvement de la centrale nucléaire de Temelín et l'appel d'offres pour la construction de deux nouveaux réacteurs. Un appel d'offres auquel prend part le groupe français Areva sera un des principaux thèmes de cette visite. Elle a parlé de mafia judiciaire. Elle, c'est l'ancienne procureure générale qui a été condamnée à présenter des excuses. Plus d'explications dans quelques instants. Et puis il sera également question de la journée européenne pour un Internet plus sûr. Quelle est la situation en la matière en République tchèque? Mais avant de répondre à cette question et de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. Comme annoncé en titre, le Premier ministre tchèque Petr Nečas est donc à Paris pour deux jours en cette fin de semaine. Juste avant son arrivée, Alexis Rosenzweig a joint par téléphone l'ambassadeur tchèque en poste dans la capitale française, Marie Chatardova. Elle a d'abord évoqué le programme de cette visite.
Il s'agit de son premier déplacement à l'étranger hors des voyages dans les pays voisins de la République tchèque, ce qui est très important à souligner. Tout de suite après son arrivée, il sera reçu par son homologue français, Monsieur François Fillon, afin de signer le plan d'action dans le cadre du partenariat stratégique. Et le soir, il va participer au dîner de bas organisé par IFRE. Le jour suivant, il y a plusieurs rencontres prévues, comme avec Monsieur Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie, aussi avec les acteurs de la vie économique. Le programme de la visite finit par un entretien avec Monsieur Nicolas Sarkozy, président de la République française.
Et justement, quels sont les principaux thèmes que le Premier ministre tchèque devrait aborder avec son homologue François Fillon et le chef de l'État Nicolas Sarkozy?
J'imagine que le Premier ministre vont discuter surtout le plan d'action et ses points les plus significatifs comme la coopération dans le secteur d'énergie, mais aussi d'autres secteurs comme la recherche, l'éducation, l'échange commercial, etc. Et puis, évidemment, tous les sujets qui concernent l'Union européenne, gouvernance économique ou la politique agricole commune. Et avec le président de la République, il y a d'autres sujets qui concernent surtout la politique étrangère plus large, puis évidemment aussi le sujet bilatéral, un peu le même sujet, surtout le secteur d'énergie.
Alors vous parlez bien sûr de ce secteur de l'énergie. Il semble que la presse française soit intéressée par cette visite, avec notamment un entretien de Peter Netschas dans le Figaro. Qu'est-ce qui, selon vous, intéresse le plus les médias de France? Est-ce que c'est cet appel d'offres qui concerne des travaux dans la centrale nucléaire tchèque de Temelín? Est-ce que c'est par exemple les modifications du traité de Lisbonne?
Tout à fait. Vous savez, les médias français, comme la plupart des médias au monde entier, s'intéressent aux informations actuelles. L'appel d'offres concernant Temelín est une des actualités. Il y a aussi nos réformes économiques qui mènent vers le budget équilibré en 2016. Mais il y aura sans doute d'autres questions posées par les journalistes français, mais je pourrais vous en dire plus dans 3 jours.
Très bien. Merci, Madame l'ambassadeur. On en reparle donc après cette visite. Je vous souhaite une bonne journée à Paris.
Merci beaucoup.
Un groupe de hauts magistrats a gagné mardi à Prague le procès contre l'ancienne procureure générale Marie Benešová. Conséquence, cette dernière a été condamnée à présenter ses excuses à la partie plaignante qu'elle a qualifiée en 2007 de mafia judiciaire. Bien que le verdict de la Cour supérieure de Prague soit définitif, l'affaire est encore loin d'être terminée, comme nous l'explique Václav Richter.
En décembre 2007, Marie Benešová, ministre fantôme, shadow ministre de la Justice, qualifie le groupe de magistrats autour de Renata Vesecká, son successeur au poste de procureur général, de mafia judiciaire qui cherche à influencer la justice pour servir les intérêts du gouvernement en place. Elle critique notamment les interventions de Renata Vesecká dans l'affaire mettant en cause le ministre et chef du parti chrétien-démocrate Jiří Čunek, accusé de corruption par son ancienne secrétaire. Le parquet général, présidé par Renata Vesecká, dessaisit alors de ce dossier le procureur de Přerov, Radim Obst, pour le confier à Arif Salichov, magistrat de Jihlava, qui décide finalement d'arrêter la procédure. Renata Vesecká est accusée par l'opposition d'avoir agi sur commande politique. Elle et les autres magistrats impliqués dans l'affaire décident de se défendre en justice contre les propos de Marie Benešová. Depuis janvier 2008, 4 verdicts ont été prononcés dans cette affaire, 2 d'entre eux donnant raison à Marie Benešová et les 2 autres à Renata Vesecká. Entre-temps, la situation de la procureure générale devient intenable. Renata Vesecká est finalement relevée de ses fonctions, de même que le vice-président de la Cour suprême, Pavel Kučera, qui lui aussi figurait dans cette affaire. Mardi cependant, le verdict de la Cour supérieure de Prague leur a de nouveau été favorable. À l'issue du procès, Renata Vesecká a dit au micro de Český rozhlas, radio publique tchèque.
Mě vůbec netěšilo vést tenhle ten soudní spor.
Je n'ai pris aucun plaisir à intenter ce procès, mais je considérais les propos de Maria Benešová comme tellement essentiels que je ne voyais pas d'autres possibilités. Du moins, c'est de cette façon que je le percevais. Je dois dire aussi que j'accueille évidemment avec satisfaction le verdict de la Cour supérieure de Prague.
Selon la présidente de la Cour, Romana Vostrejšová, le procès n'a pas établi le bien fondé des accusations de mafia judiciaire et d'intervention illicite dans le travail des organes de la justice. Maria Benešová doit donc adresser une lettre d'excuse à Renata Vesecká, à Pavel Kučera, ainsi qu'à l'ancien ministre de la Justice Pavel Němec, et publier ses excuses par l'intermédiaire de l'agence de presse ČTK. Évidemment, Maria Benešová n'est pas d'accord avec une telle décision.
Je ne suis pas surprise par ce changement de verdict et je vais certainement me pourvoir en cassation. Je serai tenue de payer les frais du procès et de présenter mes excuses, mais au cas où la Cour suprême me donnerait raison, cela se retournerait de nouveau contre la partie plaignante.
Et Maria Benešová a évoqué certains arguments pour appuyer ses propos sur la mafia judiciaire. Elle attire l'attention, entre autres, sur les récents retours à leur poste des magistrats chargés de l'affaire Čunek, contraints pourtant de partir sur Renata Vesecká. Elle rappelle également le verdict rendu contre le vice-président de la Cour suprême, Pavel Kučera, relevé de ses fonctions pour avoir influencé l'affaire Čunek. Quant au ministre actuel de la Justice, Jiří Pospíšil, qui a occupé le même poste également au sein du cabinet de Mirek Topolánek au moment où a éclaté l'affaire Čunek, il déclare respecter le dernier verdict et refuse de le commenter.
Éduquer les jeunes internautes, leurs parents et leurs professeurs aux bons usages du web. Tel est l'objectif du Safer Internet Day, autrement dit la journée pour un Internet plus sûr qui s'est tenue en République tchèque et dans le reste de l'Europe mardi. L'édition 2011, qui avait pour leitmotiv « Ce n'est pas qu'un jeu, c'est ta vie », était axée précisément sur les risques des jeux en réseau et de la communication sur les réseaux sociaux. Dans son cadre, des débats et autres manifestations sont organisées tout au long de cette semaine dans les écoles tchèques. Les détails avec Magdalena Rozinkova.
Ahoj, jmenuji se Anna, je mi 12 let. Hledám kamaráda na dopisování.
Ahoj, Aničko. Já jsem Vojta.
Réfléchis avant d'envoyer un message. Ne reste pas connecté en permanence. Pense à la façon dont les autres peuvent te percevoir. Ces conseils affichés sur un site spécial d'information lancé par Yahoo à l'occasion de la journée Safer Internet Day sont identiques aux messages des spécialistes s'adressant aux enfants et adolescents tchèques. Seuls 5% des parents tchèques contrôleraient les profils Internet de leurs enfants. Selon une enquête réalisée en 2009 par le Centre de recherche et de prévention des risques de la communication virtuelle de l'Université d'Olomouc, près de 47% des enfants tchèques ont été victimes de cyber-intimidation. Seuls 23% des enfants interrogés se sont dit prêts à se confier à leurs parents. Plusieurs organisations tchèques familiarisent enfants et adultes avec le bon comportement à adopter pour préserver leur vie privée. Parmi ces organisations, le Centre national pour un Internet plus sûr, membre du réseau européen de centres de vigilance. Le Centre tchèque a lancé deux sites web, le premier www.saferinternet.cz est davantage destiné aux professionnels et axé sur l'actualité nationale et européenne sur le sujet, tandis que le second site d'information www.bezpecznie-online.cz est consacré aux enfants, aux parents et aux pédagogues. Il contient entre autres des clips vidéo et autres astuces ludiques expliquant comment éviter des ennuis sur le net. Lenka Ekertová, une des organisatrices de l'opération Safer Internet Day, explique.
Les risques des jeux en ligne ne sont pas évidents. Souvent, les enfants plongent dans le jeu et ce n'est qu'au bout d'un certain temps que quelqu'un leur demande des données privées ou des paiements. Quant aux réseaux sociaux, le risque est bien sûr beaucoup plus grand. Pour nous, la journée pour un Internet plus sûr est une occasion de sensibiliser le grand public. Nous avons lancé un concours dans le cadre duquel les établissements scolaires et autres institutions organisent elles-mêmes en ce mois de février des manifestations, des ateliers et des débats et nous les signalent ensuite. Pour l'instant, il y en a 63 et chaque jour, ce chiffre augmente. C'est donc une initiative qui vient du public, de gens concrets dans tous les coins du pays.
prostě akce, která vzešla skutečně od těch konkrétních lidí z celé České republice.
Le Centre tchèque pour un Internet plus sûr propose une ligne téléphonique destinée aux enfants confrontés à des contenus ou comportements à risque sur le net. Selon Jiří Paleza, le nombre d'appels augmente au printemps et à l'automne.
Ces derniers temps, le nombre d'appels augmente aussi en fonction du nombre croissant de gens qui utilisent les réseaux sociaux. Mais évidemment, tout comportement illicite ne nous est pas signalé. Quant aux parents, nous savons que la majorité d'entre eux n'ont aucune idée de ce que leurs enfants font sur Internet. C'est comme ça, c'est la réalité.
Les conseils donnés aux parents et aux jeunes en République tchèque comme ailleurs sont les mêmes. Utiliser les mêmes technologies et les mêmes services que les enfants pour être au courant des risques. Enfin, ne pas s'enfermer dans la réalité virtuelle, sortir et voir ses amis dans la vraie vie est peut-être le meilleur outil pour se protéger.
Et c'est la fin de ces faits événements, mais pas encore celle du programme en langue française de Radio Prague. Celui-ci se poursuit avec aujourd'hui la rubrique touristique et direction Korzym, une ville de 1800 habitants située à une trentaine de kilomètres à l'est de Prague. Il existe plus d'une raison de visiter Korzym, une des plus importantes cités slaves se trouvait en effet à cet emplacement au 7e siècle. Mais la ville est aussi réputée pour sa cathédrale gothique Saint-Étienne, ses fortifications médiévales, son musée d'architecture, architecture populaire en plein air, et aussi pour être le centre astrologique de l'Europe, là où le 15e méridien et le 50e parallèle se croisent. Jarka Gisubelova s'est rendue sur place pour s'entretenir avec Radka Jerkowska, responsable de l'office local du tourisme.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc.
Město veliké významem, však malé svou velikostí. Místo s množstvím dochovaných památek, však s ještě větší.
Korzym est un site important de par sa place dans l'histoire, bien que petit par ses dimensions. C'est un site qui abonde en monuments, un site à la fois chargé d'histoire et parfaitement vivant. Une commune à portée de vue de Prague, mais dont la devise principale est le calme. Une destination idéale pour les excursions grand public, toutes générations confondues.
L'histoire de Korzym est liée au début de l'installation des Slaves dans les pays tchèques. Les tribus slaves arrivent au 6e siècle, tandis que l'ancêtre mythologique tchèque, patriarche de la nation tchèque, a mené ses tribus au sommet du mont Gip. Son frère Lech, fondateur de la Pologne, a choisi d'établir la sienne quelques dizaines de kilomètres plus à l'est, dans la localité de Korzym, baptisée ainsi d'après la fumée Kosh en tchèque. Une immense pierre monolithique appelée la pierre de Lech reste aujourd'hui encore le symbole mythique du peuplement de Korzym. Mais il n'y a pas que la légende de Lech qui est reliée à la ville, observe Radka Jirkovska.
Ta, na kterou jsou Korzymáci právem hrdí, je ta o legendárním.
Une autre légende dont les habitants de Korzym sont fiers à juste titre est celle de l'affrontement du prince de Korzym, Radslav, avec le prince Venceslas de la dynastie des Przemyslides. Difficile de dire avec certitude si cet affrontement a bien eu lieu. Le plus important est l'hypothèse suivante, que se serait-il passé si l'affrontement avait bien eu lieu et si le prince de Korzym en était sorti vainqueur? S'il en avait été ainsi, Prague ne serait pas devenue ce qu'elle est, mais ce serait vraisemblablement Korzym.
Une importante cité slave appelée la vieille Korzym a vu le jour à cet emplacement au 7e siècle. La fondation de la ville royale de Korzym remonte, quant à elle, au 13e. C'est de cette époque que date la construction d'un important système de fortifications doublées, avec des tours, des bastions, des créneaux et des portes. La promenade sur les ronds paraît romantique et les vestiges des fortifications donnent à la ville un aspect magique, détaille Radka Jirkovska.
Jedinou národní kulturní památkou města je opevnění.
Les fortifications sont l'unique monument de Kojem inscrit au patrimoine culturel national. Sur les 4 portes d'origine, une seule a été sauvegardée, la tour à 2 étages, construite à la fin du XIIIe siècle en forme de prisme, fait partie des constructions les mieux préservées en Europe centrale. La première mention écrite de Kojem remonte à 1261. Dès lors, la cité a servi d'exemple à d'autres villes fortifiées en train de naître. Le tronçon des remparts est long de 1250 mètres et un sentier didactique y a été aménagé.
La cathédrale Saint-Étienne, qui crée le panorama typique de Kojem, a été érigée elle aussi au XIIIe siècle. On écoute notre guide.
Dominantou náměstí, po kterém jsme části šli, je kostel svatého Štěpána.
La place médiévale a pour dominante la cathédrale Saint-Étienne, une construction de style gothique précoce, tout à fait rare dans l'architecture d'Europe centrale. Une autre rareté se cache à l'intérieur de l'église, à savoir la crypte Sainte-Catherine. Ce qui lui donne son originalité, c'est que tout cet espace s'appuie sur une seule colonne centrale octogonale. On y admire des fresques du XVe siècle récemment restaurées. Le clocher haut de 34 mètres a été érigé en 1525 pour symboliser la richesse de la cité royale de Kojem. À l'origine, 5 cloches y étaient accrochées de façon tout à fait inhabituelle, leur battant étant tourné vers le haut.
Aujourd'hui, Étienne et Marie sont les 2 cloches baroques qui ont été sauvegardées. On ignore pourquoi elles sont accrochées dans le sens inverse. Selon une légende, c'est l'empereur Ferdinand qui aurait ordonné de les accrocher de la sorte, vexé que les cloches n'aient pas sonné lors de son arrivée dans la cité. Selon une autre hypothèse, les cloches représentent le calice, symbole du mouvement hussite. L'âge d'or de Kojem se situe au XVe siècle, lorsque la cité rivalisait de par son importance avec les villes de Prague et Kutná Hora. Les Hussites qui s'y sont réfugiés avant la bataille de Lipany ont beaucoup nui à l'image de la ville. Celle-ci a le plus souffert au XVIIe siècle durant la guerre de 30 ans, suivie d'une épidémie de peste. Après un incendie dévastateur qui a ravagé le centre-ville au début du XIXe siècle, Kojem ne s'est jamais remise de ses pertes. Le bâtiment de l'ancienne mairie médiévale au milieu de la place abrite le musée de Kojem. Les salles d'exposition présentent des objets vieux de plus de 1000 ans provenant de fouilles archéologiques. Les premiers colons sont arrivés dans la région vers 3000 avant Jésus-Christ. Les visiteurs de Kojem sont par ailleurs attirés par le musée en plein air qui a ouvert ses portes en 1972 et qui les familiarise avec l'architecture populaire de Bohême, maison à colombages, campanile, croix et sculptures. Une autre curiosité de Kojem est son titre de centre de l'Europe, un privilège que se disputent plusieurs communes tchèques mais qui n'appartient en réalité qu'à Kojem, comme l'observe Radka Jirkovská.
My jsme vlastně geografickým středem protnutí 15. poledníku s 50.
C'est ici le centre géographique de l'Europe, le lieu où se croisent le 15e méridien est et le 50e parallèle nord. Mais il est vrai que le point de jonction se trouve en dehors de la ville.
Toto místo je mimo město, je za městem.
Le centre astronomique du continent européen se trouve dans un champ à moins de 2 km de Kojem, à proximité de la pierre de Lech. La société astronomique tchèque a effectué des mesures le 23 septembre 1995, soit le jour de l'équinoxe d'automne. Depuis le 25 novembre 2010, un monument en forme de globe terrestre marque l'endroit où se trouve le centre astronomique de l'Europe. Une autre curiosité de Kojem est que la cité et son musée en plein air attirent les cinéastes. Plus d'une dizaine de films et contes de fées y ont été tournés. Dernièrement, c'était une série télévisée tirée du roman humoristique éponyme de Karel Poláček, Nous étions 5. Le centre historique de Kojem se prête à l'organisation de diverses manifestations comme, pour la 17e fois en 2010, les Journées européennes du patrimoine. Et les projets à l'avenir de Radka Jirkovská, on l'écoute.
Mým snem je vybudování, přiblížení staré Kouřimi.
Mon rêve est de restituer, de rapprocher la cité de Kouřim. La vieille Kouřim, c'est en fait la localité du peuplement slave d'origine. Le lieu fortifié de la tribu des Zlechanais était l'un des plus importants à l'époque. Aujourd'hui, c'est un lieu de promenade avec un sentier didactique récemment ouvert. On y voit des remparts, des fortifications. Compte tenu de l'importance de cette localité, ma vision est d'en faire profiter à d'autres fins encore. Je crois pouvoir réaliser mon rêve et voir un jour ouvrir, dans la localité de la vieille Kouřim, un archéoparc. Parc d'attractions archéologiques, sites de loisirs, de balades et de culture, et musées vivants en plein air avec des démonstrations de métiers historiques et du mode de vie de nos ancêtres.
Voilà, c'est avec cette petite excursion touristique que s'achève pour aujourd'hui le programme en langue française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité.